Selon les Écritures. Selon les Écritures, le père Alain Marchadour, bibliste, dialogue avec Pierre-Yves Révillon.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission biblique selon les Écritures. Pierre-Yves Révillon au micro avec le père Alain Marchadour, bibliste.
Bonjour père Alain.
Bonjour Pierre-Yves.
Dans la précédente émission, nous avions commencé à parcourir votre nouveau livre intitulé « Ce que la Bible dit sur la fidélité » qui vient d'être publié aux éditions Nouvelle Cité. Vous nous aviez montré comment se manifestait dans le Premier Testament cette notion de fidélité entre Dieu et ses partenaires collectifs, que sont le peuple, les fils d'Israël et le petit reste. Nous poursuivons aujourd'hui notre parcours. Dans votre deuxième chapitre, vous cherchez à savoir qui sont les partenaires de Dieu en fidélité. Et vous identifiez trois êtres collectifs, le peuple, les fils d'Israël, le petit reste. Et aussi des individus sur lesquels nous reviendrons plus tard. Pouvez-vous d'abord nous préciser ce que vous entendez ici par « peuple » ?
Alors, pour comprendre ce que peut signifier le mot « peuple », il faut d'abord remonter à ce qui précède, c'est-à-dire avant l'expérience de Moïse, on a le sentiment qu'il y a une entité beaucoup plus floue, on pourrait dire que c'est les Hébreux, qui sont voisins et très parents de ce qu'on a appelé les Hapirous, c'est-à-dire une population nomade qui circulait dans le Proche-Orient. Et à partir de l'expérience mosaïque, il va y avoir alors une entité proprement précise qui va se dessiner avec des noms qu'on va regarder ensemble, et dont le premier est le nom de peuple. C'est-à-dire, un peuple va devenir... Un peuple, c'est quelque chose qui n'est pas simplement un groupe d'hommes sans grande consistance, c'est une entité avec une identité propre. Et le mot « peuple », en hébreu, il y a deux mots pour dire « peuple ». Il y en a un que vous connaissez sans doute, ce qu'on appelle les goïms. Les goïms, c'est nous, on est les goïms, les non-juifs. Il y a les goïms, c'est un peuple, et le mot « âme », c'est le peuple dans son identité juive. Et donc, avec l'expérience de Moïse, c'est un peuple qui se construit, un vrai peuple. Et si vous vous en souvenez, quand vous ouvrez le livre de l'Exode, parce que là, une grande partie de l'histoire d'Israël se structure à partir de l'Exode, lorsque Dieu dit à Moïse, par exemple, « Va, fais sortir mon peuple ». Cette entité, donc cette formule « mon peuple », c'est véritablement un peuple qui m'appartient, un peuple qui a des devoirs envers moi aussi, des exigences, et donc c'est véritablement là que se fonde l'alliance, le lien que j'évoquais tout à l'heure. On a tout à l'heure parlé de, fois précédente, on a parlé de la différence entre Dieu et l'homme. Et on pourrait dire un peu la même chose, différence entre le Dieu du Sinaï et puis le peuple, souvent infidèle finalement, et Dieu qui maintient quand même sa fidélité, et c'est ça qui est la beauté aussi de ce livre, qui se déploie au fond sur toute l'histoire. C'est mon peuple, va, demande à Pharaon qu'il libère mon peuple. Vous voyez, c'est une identité forte, hein, mon peuple.
Oui, maintenant va, je t'envoie auprès de Pharaon, fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Je vous prendrai pour mon peuple, et je serai votre Dieu. Et vous saurez que je suis Yahvé, votre Dieu.
Voilà, c'est donc très fort, évidemment.
Alors, ce peuple aimé de Dieu, on comprend qu'il est aimé, est-ce qu'il est fidèle ou non, finalement ?
Alors, on voit bien, quand on lit la Bible, il y a des infidélités qui sont assez rapides. La plus terrible des infidélités, quelquefois on l'oublie un peu, c'est qu'au moment où Dieu transmet la Torah, le décalogue à Moïse, Dieu lui dit à un moment donné, dépêche-toi de descendre, parce que ton peuple, alors ça c'est fait l'humour de Dieu, c'est plus mon peuple, ton peuple est en train de se pervertir, il est en train de se faire un veau d'or. C'est-à-dire que vous voyez, quand on parle d'infidélité, on pourrait presque dire il y a une infidélité qui est dès le commencement. Le premier geste que le peuple va faire, c'est de douter de Moïse, puisque Moïse tarde à descendre de la montagne, vous vous en souvenez, et le peuple demande à Aaron, le prêtre, de lui donner un Dieu qui soit construit en matière humaine, et un Dieu qu'ils puissent porter avec eux, sur lequel ils auront barre. Et le scandale du prêtre à Aaron, ça nous dit aussi quelquefois quelque chose de l'infidélité des prêtres, du sacerdoce dans l'Antiquité. Il va céder à la tentation et il va faire ce péché grave, au fond, de créer un faux Dieu, alors que Dieu est en train de donner la loi à son peuple à travers Moïse.
Alors ensuite, le deuxième partenaire collectif, ça a l'air d'être un peu plus précis. Ce sont les fils d'Israël à qui Dieu dit « Écoute Israël, Shema Israël ». Qui sont-ils? Que font-ils?
Alors, c'est des termes qui se recouvrent un peu, on pourrait dire. Mais ici, évidemment, il y a une nuance différente, c'est que ça nous fait remonter dans la Bible à l'histoire d'Israël, Jacob. Jacob, c'est le fils donc qui a été infidèle. Et ce Jacob, il va devenir Israël. Et à quel moment devient-il Israël? Et c'est là que c'est intéressant de voir la logique. Souvent, on se dit que la Bible n'a pas une logique narrative, peut-être pas comme nous on la pense, mais il y a une logique narrative. Quand les Juifs arrivent en Égypte, on dit les enfants d'Israël, et on énumère le nom de tous les enfants de Jacob. Jacob étant celui qui s'est fait appeler Israël après, vous en souvenez.
Oui.
Et donc, on énumère leur nom, et on parle des fils de Jacob ou des fils d'Israël. Et lorsqu'au verset 6 du premier chapitre de l'Exode, on reparle des fils d'Israël, les Bnei Israël en hébreu, c'en est fini des fils selon la chair, c'est devenu le peuple d'Israël. Et donc, le peuple d'Israël, mon peuple, c'est aussi les enfants d'Israël, c'est-à-dire cette idée d'Israël devenant un autre terme pour désigner le Dieu, le peuple croyant dans ce Dieu qui s'est révélé au Moïse. Donc vous voyez, c'est une autre appellation qui est assez proche du peuple, au fond, mon peuple. Et Israël, on trouve beaucoup dans le livre du Deutéronome en particulier, écoute Israël, c'est vraiment le peuple ramassé dans cette écoute qui est une exigence.
Et puis il y a aussi ce passage, et maintenant Israël, qu'est-ce que le Seigneur ton Dieu attend de toi? Il attend seulement que tu craignes le Seigneur ton Dieu, en suivant tous ses chemins, en aimant et en servant le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être. C'est presque la feuille de route de la fidélité.
Oui,
ça.
Oui, on est pleinement, c'est-à-dire, c'est pour ça que l'Exode est fondamental, et que l'Exode est à la fois fondamental, fondateur. C'est là que la fidélité, et l'infidélité malheureusement, s'engendre. C'est-à-dire, Israël, Dieu a été souvent lassé. Vous vous souvenez que même il y a des passages dans l'Exode qui sont très anthropomorphiques. Lorsque Dieu dit à Moïse, écoute, ton peuple vraiment n'y vaut rien, je vais t'en donner un autre. Et Moïse lui dit, tu peux pas, c'est ton peuple. C'est celui-là ton peuple. Tu peux pas c'est lui ton peuple. Et Dieu pardonne, bien sûr, parce que Dieu, c'est le Dieu du pardon.
Alors ensuite, il y a un troisième partenaire collectif que vous mentionnez dans votre livre. Alors celui-là, il est un peu plus intrigant. Le petit reste, qu'est-ce que c'est que ce petit reste?
Alors ça reflète bien sûr une partie de l'aventure d'Israël. Israël a connu des aventures tragiques, hein. Vous les connaissez, l'exil en particulier. Un exil terrible, un exil où Israël a fait l'expérience de ses difficultés, de ses infidélités. Et donc, vous avez une façon régulière de la part du prophète, qui est l'interprète de Dieu, de dire, bon, ben je vais sauver un reste. De tout Israël, de tout le peuple d'Israël, il ne restera que un petit reste. Et ce petit reste, c'est celui qui va revenir de l'exil. C'est surtout là qu'on va retrouver cette thématique du reste. Et ce reste, c'est évidemment ce collectif, on pourrait dire, c'est quelques-uns qui reviendront, parce que le plus tragique, évidemment, aurait été que le peuple d'Israël disparaisse d'une certaine façon, ce qu'il aurait pu faire si Dieu n'avait pas été en permanence à ses côtés pour, à travers les prophètes, au fond, le faire se relever, quitte à ce que, en définitive, il n'y ait plus qu'un petit reste, mais ce petit reste, au fond, c'est toujours le peuple d'Israël, et c'est évidemment une entité fondamentale dans les trois façons de penser le peuple d'Israël.
Alors ensuite, dans votre chapitre 4, vous soulevez la question de savoir quelle peut être la réponse d'un Dieu fidèle à un partenaire infidèle, puisque vous nous parlez, finalement, on n'arrive pas trop à dissocier fidélité-infidélité, donc un partenaire infidèle, et vous citez en exergue le prophète Isaïe, au chapitre 49. Je lis cet extrait. « Sion disait, le Seigneur m'a abandonné, mon Seigneur m'a oublié. La femme oublie-t-elle son nourrisson ? Oublie-t-elle de montrer sa tendresse à l'enfant de sa chair ? Même si celle-là oubliait, moi je ne t'oublierai pas. Vois que sur mes paumes je t'ai gravé, que mes murailles sont constamment sous ma vue. Ne crains pas, un brève instant je t'avais abandonné, mais sans relâche, avec tendresse, je vais te rassembler. Avec une amitié sans fin, je te manifeste ma tendresse, dit celui qui te rachète, le Seigneur. » Alors, étonnamment, Isaïe ne parle absolument pas de châtiment face à l'infidélité, mais seulement de la tendresse maternelle, Père Alain.
Alors évidemment, ça, si on ne se cantonnait à ce passage, évidemment, on pourrait dire qu'il n'y a pas de condamnation. Mais il y a d'autres passages prophétiques qui mettent en garde Israël pour ses trahisons. Donc il y a à la fois une dimension humaine, une dimension mystique. Évidemment, le passage que vous avez cité sont très importants parce qu'ils nous font comprendre que Dieu est un Dieu de tendresse, avec un vocabulaire presque maternel, souvent Dieu qui revient vers ses enfants comme une maman revient vers ses enfants. Ces images sont d'une audace extraordinaire. Enfin, on connaît peu, moi j'en connais pas beaucoup, de religions qui ont osé aller jusque-là pour définir les relations entre Dieu et son peuple. Cette utilisation de la maternité qu'on retrouve dans plusieurs psaumes, par exemple, Dieu est comme une mère qui secourt ses enfants, qui les allaite, qui les fait grandir. Oui, c'est vrai que Dieu reste quand même le Dieu du pardon. Dieu pardonne. Peut-être même, alors ça serait un autre chapitre qu'on ne peut pas développer aujourd'hui, mais que je peux simplement juste évoquer. En hébreu, il y a un verbe pardonner qui n'est appliqué qu'à Dieu seul. Comme si on laissait entendre Dieu seul est capable de porter un pardon véritable. Alors que l'homme, on le vérifie nous-mêmes quand on récite notre Père, combien de gens nous disent « j'ai du mal à dire pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons » parce que on n'est pas Dieu. Dieu peut pardonner et Dieu pardonne. Et ça, c'est la beauté de cette alliance à la fois d'un Dieu exigeant, mais en même temps d'un Dieu du pardon.
Alors ensuite, il y a deux autres prophètes très importants. Là, on a parlé d'Isaïe. Il y a Jérémie et Ézéchiel, les prophètes de l'exil aussi, et qui vont commencer à évoquer l'idée d'une nouvelle alliance, Père Alain, ce qui peut paraître très audacieux dans le contexte de cet exil où tout le monde devait se demander ce qui allait arriver.
C'est vrai. Et c'est vrai d'autant plus que c'est surtout Jérémie qui est allé loin dans cette approche, si vous voulez, le fameux chapitre 31 du livre de Jérémie, ça serait «
Des jours viennent, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la communauté d'Israël et la communauté de Juda une nouvelle alliance. Voici l'alliance que je conclurai avec la communauté d'Israël après ces jours-là, oracle du Seigneur. Je déposerai mes directives au fond d'eux-mêmes, les inscrivant dans leur être. Je deviendrai Dieu pour eux et eux, ils deviendront un peuple pour moi. »
Alors ce passage, évidemment, est, on pourrait dire, unique. C'est le seul passage dans toute la Bible où on trouve la thématique d'une nouvelle alliance. Une alliance nouvelle au sens fort du mot hébreu, nouveau. C'est pas comme nous quand on dit les nouveautés, par exemple, littéraires, c'est simplement nouveauté parce que ça arrive maintenant. Non, la nouveauté dans le sens biblique, qu'on va retrouver d'ailleurs dans l'alliance nouvelle du Christ, l'amour nouveau qu'il nous propose, c'est une nouveauté absolue, radicale. Comme si Dieu le dit quelquefois dans sa parole prophétique, à travers les prophètes, il dit au fond, l'homme n'est pas capable d'être fidèle. Et c'est, d'une certaine manière, c'est un peu consolant, mais en même temps, ça nous fait une exigence. L'homme n'est pas capable d'être fidèle. Et une des raisons qui fait dire à Dieu, et ça c'est une audace formidable pour nous, pour les Juifs et pour nous, mais pour nous, évidemment, c'est le Christ qui va nous faire comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire, il n'y a que Jésus en nous qui peut nous conduire à la hauteur de Dieu. Et quand Dieu dit « je vais mettre en eux un cœur nouveau », c'est-à-dire ça va être au fond une création nouvelle, et Dieu le rappelle dans ce passage et dans quelques passages de Jérémie, ce que nous évoquons tout à l'heure, c'est-à-dire que dès le Sinaï, ils ont déjà trahi. C'est-à-dire, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'ils ont toujours été traîtres, non, mais ils ont été infidèles à Dieu, et Dieu, au fond, à travers Jérémie, et à travers d'autres prophètes, Ézéchiel, finira par dire, eh bien, finalement, la seule solution, c'est que je mette un nouveau cœur dans votre vous, c'est-à-dire, à la limite, c'est le cœur de Dieu.
C'est ce fameux passage du chapitre 36, « Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous amènerai sur votre sol. Je purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur neuf et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre cœur, de votre corps, le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. »
Alors évidemment, c'est très fort. Hein. C'est aussi l'expérience de l'exil, c'est-à-dire d'avoir traversé l'exil. Ça a conduit les prophètes à ouvrir peut-être des langages à la fois de proximité, de tendresse et d'espérance au fond, parce que le retour d'exil nous fait toujours toucher du doigt ce reste. Hein, et on ne peut pas, évoquant les restes, on a parlé tout à l'heure, le reste tragique d'Israël après la Shoah. C'est-à-dire, la grande masse des Juifs ont été massacrés pendant... la guerre de 39-45, encore plus que pendant l'exil, c'est-à-dire comme si on avait voulu éteindre cette race. Et ce reste, au fond, Dieu dit, je vais garder ce reste, et c'est ce reste, au fond, qui va témoigner de la fidélité.
Alors, ensuite, dans le chapitre 5 de votre livre, vous présentez quelques personnages particulièrement fidèles du Premier Testament. Alors, on a déjà évoqué Abraham, on ne va pas revenir dessus. Il y avait d'ailleurs eu 4 émissions à son sujet. Vous évoquez aussi, bien sûr, un autre patriarche, Jacob, dont l'histoire nous est rapportée dans la Genèse. Tout le monde connaît le récit de son combat nocturne avec Dieu. J'en cite un extrait. « Cette même nuit, Jacob se leva, passa le gué et il resta seul, et quelqu'un lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, il le frappa à l'emboîture de la hanche, et la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Lâche-moi, car l'aurore est levée !» Mais Jacob répondit « Je ne te lâcherai pas, que tu ne m'aies béni !» etc., etc. Il faut relire ce texte magnifique. Quels sont un peu les temps forts de l'histoire de Jacob qu'on pourrait mentionner à propos de la question de la fidélité?
Alors justement, je l'ai retenu pour la fidélité parce que il donne le sentiment que, à travers son parcours, il a été souvent infidèle. C'est-à-dire, c'est le rusé par excellence. Jacob, c'est celui qui ruse, qui trompe, qui ruse en particulier avec son frère Ésaü, qui lui vole son plat de lentilles. Vous voyez, là aussi, on retrouve un thème intéressant, le thème des repas. Normalement, les repas, c'est fait pour fraterniser, surtout quand on est entre deux frères. Eh bien, lui, au moment de ce repas où Ésaü, qui était un peu primaire, hein, et il a faim, il veut manger, et ils font un échange de son droit d'aînesse que Jacob accepte pour avoir un plat de lentilles. Alors, évidemment, il y a un peu d'humour derrière tout ça. Il y a derrière, bien sûr, la trace du conflit entre les peuples de Jacob et d'Ésaü, c'est-à-dire les Juifs et les Madianites. Donc ça, c'est vrai. Mais en même temps, cette infidélité, puis il refera la même chose quand il va voler alors le droit de d'aînesse grâce à sa mère. Vous vous rappelez, sa mère va le déguiser en Ésaü pour qu'il puisse tromper le père Isaac, qui était devenu aveugle. Et là encore, il y aura une ruse qui va l'obliger à partir, et c'est encore dans un repas, le repas que Isaac demande de préparer, et trahison, et il va partir. Et ça sera donc un moment qui va nous conduire, alors c'est là que ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, la fidélité de Jacob, de Israël, elle va surgir au moment où il recevra ce nouveau nom que vous avez évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire, quand il devient Israël, c'est presque une renaissance qui lui est donnée, et ça nous conduit déjà à la naissance d'Israël, puisque ça sera le nom du peuple d'Israël qui adviendra plus tard.
Eh bien, nous sommes en plein suspense, mais nous sommes au terme de cette deuxième émission consacrée au thème de la fidélité dans la Bible. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, pour la dernière émission de cette série thématique. Merci à vous, Père Alain Marchadour, de nous avoir partagé vos connaissances. Je rappelle à nos auditeurs que votre livre s'intitule « Ce que la Bible dit sur la fidélité » et qu'il est publié aux éditions Nouvelle Cité. Merci aussi à Francky Guéret qui assurait la réalisation de cette émission. Nous voici au terme de la rediffusion de ce numéro de l'émission biblique selon les Écritures avec le Père Alain Marchadour, bibliste, qui nous a quittés le 3 mai dernier. Pour lui rendre hommage, Présence rediffuse l'intégrale des 44 émissions de 20 minutes du 29 juin au 4 septembre 2026, du lundi au vendredi. Rendez-vous donc au prochain numéro de Selon les Écritures. Chaque émission peut aussi être réécoutée à tout moment en podcast sur le site web radioprésence.com. Au revoir et à très bientôt sur les antennes de Présence.